Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien, je fais partie du Conseil des Anciens et j'ai l'immense privilège de vous apporter, de nous apporter la parole ce matin. Je ne sais pas si certains étaient là la semaine dernière, Andrew nous a apporté un message sur le fait d'être préparé. Et toutes les paroles qui ont été données ce matin sont en lien avec tout ça et avec ce que je vais apporter, donc je rends vraiment gloire à Dieu. Je vous propose de prendre la parole dans Matthieu 4, au verset 17 jusqu'au verset 22. Ça va s'afficher normalement derrière moi. Super, merci Nico. Et puis, je vais lire. Au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Alors pour vous donner un peu le contexte, juste avant, dans Matthieu 3, Jésus se fait baptiser par Jean. Ensuite, au début du chapitre 4, Jésus est amené dans le désert, il est tenté. Et là, on lit au verset 17, Jésus commence à prêcher. Il est tout au début de son ministère. Il prêche, mais en parallèle, il fait quelque chose de central. Il commence à appeler des hommes à le suivre. Il prépare son équipe. Et on parle des quatre premiers, ce sont les quatre qui vont être le plus proches de Jésus. Et pourquoi il appelle ces hommes à le suivre? Pour les former. Et pour qu'après son départ, ils puissent en former d'autres encore et encore et encore. Et qu'à leur tour, ils puissent faire comme Jésus. Est-ce qu'il y en a qui me suivent sur les réseaux? Instagram, Facebook, LinkedIn? Farid, non? On est OK sur le fait qu'aujourd'hui, suivre quelqu'un, ça ne veut plus rien dire. On s'abonne? On like, on fait défiler la vie, on se désabonne même des fois quand on ne veut plus voir le contenu de la personne. Aujourd'hui, suivre quelqu'un, c'est ce genre d'engagement. Mais pour comprendre ce que ça veut dire l'engagement à l'époque et suivre quelqu'un à cette époque-là, on a besoin de faire un saut dans le temps. Et réaliser qu'en fait, suivre quelqu'un à cette époque-là, c'était bien plus important que ce qu'on fait aujourd'hui. Durant sa vie sur terre, Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Christ. Il était le Messie. Mais il était aussi un rabbin. Et Joël, arrête-moi si je me trompe, mais rabbin, c'est le mot hébreu qui veut dire maître ou enseignant. Et les rabbins faisaient quoi? Ils allaient de ville en ville. Ils prêchaient dans les villages, dans les synagogues. Et dans la Bible, 90 fois, et particulièrement dans les évangiles, 90 fois, les gens s'adressent à Jésus. Et sur les 90 fois, il y a 60 fois où on entend « Rabbi, maître, enseignant ». Un pasteur que j'aime bien a fait quelques recherches approfondies et je me suis servi de ce qu'il a dit. Tous les rabbins avaient des disciples. Mais pour devenir disciple, c'était un vrai parcours du combattant. Et les Hébreux à l'époque avaient un système d'éducation en trois étapes. D'abord, les enfants de 6 à 12 ans lisaient écrivez et apprenez la Torah. Les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vais dans le livre des Nombres, j'ai du mal à finir un chapitre. Je vais jusqu'au bout, mais c'est compliqué. À 12 ans, la plupart de ces jeunes-là connaissaient la Torah par cœur. Ensuite, les meilleurs, à l'âge de 12 ans, pouvaient aller dans une école spécialisée. Et là, ce n'était plus les cinq livres de la Torah qu'ils apprenaient. C'était le Tanakh. Le Tanakh, 24 ou 36 livres. Voilà, c'est en gros une grosse partie de notre Ancien Testament. Et ils apprenaient ça par cœur. Ça, c'était la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, pour les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Eux, ils pouvaient potentiellement espérer qu'un disciple les choisisse. Mais on ne pouvait pas devenir disciple d'un rabbin simplement comme ça en allant voir quelqu'un. Le rabbin faisait passer un entretien et en fonction de votre intelligence, de vos talents, de vos dons, de votre capacité, de votre comportement, là, il pouvait dire « Suis-moi ». Très peu de gens avaient la chance d'entendre ça venant d'un rabbin. On comprend donc pourquoi Simon, Pierre, André, Jacques, dès qu'ils ont entendu Jésus, ils ont tout lâché et ils ont suivi. Et à cette époque, quand tu atteignais un niveau ultime de pouvoir suivre un rabbin, ta vie était basée sur trois principes. Être avec ton rabbin, devenir comme ton rabbin, faire tout ce que ton rabbin faisait. C'est quand tu avais passé beaucoup de temps avec ton rabbin, avec lui, que tu es devenu comme lui, que tu faisais ce que lui faisait, qu'à la fin il pouvait te dire « Va maintenant et va faire des disciples ». Alors du coup, c'est quoi un disciple ? John Mark Comer utilise cette définition pour expliquer le sens du mot « disciple ». C'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus, pour devenir avec Jésus et pour faire ce que Jésus faisait. Je sais que Luc aime bien utiliser les mots, là, les lettres, RATP et compagnie. Là. Donc moi, je vous ai sorti EDF. Être avec Jésus, devenir comme Jésus, faire ce que Jésus faisait. Tu vois, Luc, ils aiment bien. Ok. Viens sur moi. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage. L'engagement, c'est le premier thème fort dans ce passage. Au verset 20, on lit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Au verset 22, « Aussitôt, ils laissèrent leur barque, leur père et le suivirent. » Et on lit aussi dans Marc 2, au verset 13, « Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et il lui dit « Suis-moi. » Lévi fait quoi ? Lévi se leva et il le suivit. On voit très clairement l'engagement de ces hommes que Jésus appelle. Mais Jésus n'appelait pas les foules et ses disciples simplement à une croyance intellectuelle, mais à un choix radical, un engagement profond, un engagement sincère, durable. Suis-moi. Et on ne va pas se mentir, à l'époque, suivre quelqu'un comme ça, ça engageait forcément beaucoup d'ajustements. Ça demandait de réorienter sa vie tout entière, son temps, ses priorités, ses habitudes, ses relations. Et bien c'est toujours pareil, 2000 ans plus tard. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous allez comprendre l'exemple. S'engager dans l'armée ou s'engager dans la police, c'est un vrai engagement. C'est pas la JAPD, c'est pas la journée d'appel à la défense où on part le matin, on a le steak frites le midi et on revient à la maison chez maman le soir. À 18 ans, quand je me suis engagé, c'était toute ma vie que je réorientais. Mon temps était dédié à l'armée, mes habitudes à l'armée, mes priorités à l'armée. Mon ancienne vie était derrière moi, ma vie civile était derrière moi. Maintenant, c'était ma nouvelle vie militaire dans laquelle je m'étais engagé et j'étais lié à elle par mon engagement. On pourrait aussi parler, on pourrait aussi parler de l'engagement du mariage. Mais ça reviendra dessus plus tard. Il y a 3 semaines, j'ai appelé Nico pour aller bosser avec moi dans le fin fond du Portugal. Et quand je préparais cette prédication, il y a quelque chose qui m'a travaillé. Du coup, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai demandé, Nico, qu'est-ce qui a fait que tu m'as suivi ? Il m'a répondu, tu avais besoin d'aide. C'est celui qui se cache avec la casquette là derrière les écrans. Tu avais besoin d'aide, je pouvais t'aider. Je t'ai naturellement suivi. J'avais confiance en toi et en tout ce que tu avais préparé. Donc te suivre pour aller si loin n'était clairement pas un problème. Nico n'était pas formé à mon métier. Et je ne sais pas si à un instant il s'est demandé s'il était capable de pouvoir me suivre, s'il avait la capacité de faire ce que j'allais lui demander. Et pourtant il m'a suivi. Il s'est engagé. Ça m'a inspiré de voir ça. Nico a 21 ans. Ayons cette attitude avec Jésus. Faisons-lui confiance. Engageons-nous. Suivons-le. Matthieu 16, au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. S'engager à suivre Jésus, c'est se lier à lui. C'est lui faire la promesse de s'abandonner, d'abandonner sa vie, d'abandonner ses biens, d'abandonner sa famille. On en parlera plus tard. Et on l'a dit tout à l'heure, l'engagement est un sacrifice. 1. L'engagement. Pour être avec Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus. Le point de départ, juste après l'engagement, c'est pas de devenir comme Jésus, c'est d'être avec lui. À l'époque, suivre son rabbin, c'était pas juste le dimanche matin. C'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vivais avec, tu mangeais avec. Tu étais constamment dans sa présence. Tu étais attaché à lui. Et Pierre a fait une prédication il y a quelques temps. Je vous invite vraiment à l'écouter sur Jean 15, au verset 1 qui dit « Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Demeurez en lui. Être avec Jésus, c'est demeurer. C'est pas juste être un petit peu avec lui. C'est de demeurer dans sa présence. Et encore Jean 8, au verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. « Si vous demeurez en moi. » Alors le « demeurer en moi », il y a « si ».« Si vous demeurez en moi. » On ne peut pas devenir disciple de quelqu'un qu'on ne fréquente pas. Je ne peux pas continuer à m'attacher à ma femme si je ne passe pas du temps avec elle. Et on le voit tout au long des évangiles, les disciples vivaient littéralement aux côtés de Jésus. Et ce matin, j'ai vraiment envie de nous encourager à cultiver cette même relation. Alors oui, on n'est pas comme les disciples, on n'a pas Jésus physiquement à nos côtés. Mais il nous a donné son esprit. Et par son esprit, nous pouvons avoir un accès direct à lui. Nous avons une vraie nécessité à mettre une discipline régulière et forte dans notre temps quotidien, dans notre vie ici sur Terre. Et Farid nous disait dans un cours, nos habitudes nous forment, mais c'est notre discipline qui nous transforme. Être avec Jésus, c'est prendre l'habitude de prier, de louer, seul ou entre frères et sœurs, comme on a fait ce matin. Être avec Jésus, c'est prendre l'habitude aussi de lire la parole. Pas comme je l'ai fait pendant des années, juste pour me dire, c'est fait. Mais vraiment pour me laisser surprendre par ce que Dieu a à me dire dans ce moment. Hébreux 4, 12 nous le dit, et on l'a répété ce matin, la parole de Dieu est efficace et vivante, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Quand on lit la parole, les amis, la parole pénètre à l'intérieur et nous transforme. Être avec Jésus, c'est aussi prendre l'habitude d'avoir des temps de repos, des temps de calme, des temps où on ralentit. Pour laisser le brouhaha du monde et pour se recentrer, recentrer nos pensées, recentrer notre cœur sur Jésus. Perso, quand j'ai une date de prédication, j'ai toujours un peu de pression, mais je me réjouis d'une chose particulièrement, c'est que je sais que je vais avoir un temps vraiment à part. C'est que je sais que je vais avoir un temps pour prier, un temps pour louer, un temps pour pleurer. Je pleure souvent. Attends bien Farid aussi. Être avec Jésus va venir développer cette intimité et nous rendre plus attentifs à sa voix quand on nous parle, quand il nous parle. Un disciple, c'est quelqu'un qui est engagé à être avec Jésus pour devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus, ce n'est pas juste une idée. Les disciples de l'époque aspiraient vraiment à être comme leur rabbin. Ils aspiraient à être une copie parfaite. Ils voulaient manger comme lui, parler comme lui, avoir les mêmes mimiques, avoir les mêmes postures, les mêmes habitudes, les mêmes disciplines, les mêmes habits. Nico, tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît ? C'est chou, non ? Je leur ai rien demandé. C'était il y a un peu plus d'un an. Mais ils sont avec moi. Ils passent du temps avec moi. Ils me voient faire. Donc ils font quoi ? Ils reproduisent. Quand je serai grand, je voudrais être comme papa. Pas dans ses imperfections, mais dans tout ce qu'il fait, qui nous fait grandir. Éphésiens 5, verset 1 dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Plus je suis avec lui, plus je deviens comme lui. Plus je m'inspire de Jésus et plus j'aspire à voir dans ma vie les fruits. » Vous savez, ces fruits de l'esprit dont Galates 5, verset 22 parle. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Il y a quelque chose de fondamentalement humain, c'est qu'on a tous été créés avec un désir et un besoin de grandir. Et en parallèle de ça, un désir et un besoin de s'identifier à des personnes. C'est comme ça. En effet, comme ça. Mais j'ai plein de questions pour vous ce matin. Qui nous influence aujourd'hui ? Qui a ce rôle aujourd'hui de m'influencer dans mon quotidien ? Qui me donne envie de devenir comme lui ? On le voit sur les réseaux, hein. Il y en a un paquet d'influenceurs. Moi, influenceur est arrivé dans le Larousse maintenant. Mais qui suivons-nous ? Et à qui voulons-nous ressembler ? Qui nous forme ? Et surtout, de qui sommes-nous les disciples ? Actuellement, avec Luc, nos influenceurs sont Farid, Pierre, Andrew, Rémi Gomez, Georges T. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes aspirent à devenir tous les jours un peu plus comme Jésus. Soyons sincères quand on réfléchit à ça, à toutes ces questions que j'ai posées juste avant. Mais surtout, soyons intentionnels. Et oui, il y a les hommes de Dieu qui peuvent nous former sur cette terre. Mais le seul que moi je veux suivre, c'est Jésus. Et en passant, on vous en parlera au week-end de rentrée, mais aujourd'hui, on a notre famille d'église ou même notre église a tout un tas d'outils pour nous former, avec l'ITRC, avec Vocation, avec le blog de Jean-Hé, avec des formations qu'on fait en interne. Et ne restons pas sans rien. Formons-nous, apprenons. Ce que Jésus vient faire quand on s'engage, c'est que, et quand on veut surtout devenir comme lui, c'est qu'il vient opérer une vraie transformation, une transformation intérieure, pour que notre caractère ressemble au sien. Devenir disciple, ce n'est pas juste apprendre la Torah ou apprendre le Tanakh, comme il se faisait à l'époque. Devenir disciple, c'est entrer dans un processus de transformation qui m'amène à ressembler chaque jour un peu plus à Jésus, qui est ce modèle, qui est ce grand berger. Et un processus, ça prend du temps. Il faut accepter qu'un processus, ce soit par étapes. Cette transformation, elle ne peut pas s'opérer par nos propres forces, mais par son esprit. Zacharie 4, verset 6 dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Arrêtons par nos propres forces de vouloir y arriver. Arrêtons de vouloir devenir des meilleures personnes. La meilleure version de moi-même, comme on entend souvent. Par mes propres forces, on n'y arrivera pas. On l'a lu juste au-dessus. Être un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme Jésus et enfin pour faire ce que Jésus faisait. On l'a lu au début du message. Jésus a guéri, Jésus a enseigné, Jésus a pardonné, Jésus a accueilli, Jésus a rendu justice. Et en parallèle de ça, il formait des disciples. Et je le disais un peu plus tôt, le but de former des disciples, c'est que ses disciples en forment d'autres encore et encore et encore. Jésus a pris une équipe de 12 autour de lui, puis 70, puis ça s'est développé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, il nous appelle à devenir ses disciples. On a besoin de continuer ce process. Pourquoi ? Pour continuer à enseigner, pour continuer à libérer, pour continuer à guérir, pour continuer à proclamer la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est proche. Au verset 19, on a lu « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » C'est quoi notre mission ? Vous la connaissez ? Vous connaissez ce grand mandat, cette grande mission ? Dans Matthieu 28, au verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Je serai avec vous tous les jours. Quand Jésus donne un ordre, il donne aussi une promesse. Allez et faites des disciples. Baptisez-les. Apprenez-leur. Mais la promesse, c'est qu'il sera avec nous. J'ai envie de nous interroger ce matin. Sur deux choses. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui adhèrent simplement à quelques enseignements de Jésus et qui viennent le dimanche parce que ça fait du bien? Ou bien sommes-nous vraiment des disciples de Jésus? Si nous sommes juste ces chrétiens, aspirons à devenir des disciples. Si nous sommes déjà des disciples, faisons des disciples. On n'est pas des disciples pour rester disciples. On est des disciples pour faire des disciples. Et qui peut devenir disciple ? On l'a dit au début, avant, à l'époque, en tout cas, il y a 2000 ans, c'était l'élite c'était réservé à une minorité de personnes. Et Jésus, il vient faire quoi? Il vient briser les règles. Il vient casser les codes. Marc 8, 34 dit, « Puis il appela la foule et ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il appelle qui? Tout le monde. Pas que ses disciples. Il appela la foule et ses disciples. Dans certains passages, il y a d'autres traductions qui disent « quiconque » ou « n'importe qui ». Peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe ton niveau social, Jésus t'invite ce matin. Tout le monde est invité. Les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les colériques, les bagarreurs, les grands, les petits, les jeunes, les vieux, les moustachus. Simon était impulsif. André était effacé, Jacques était colérique, Barthélemy était tranchant, Thomas était pessimiste. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les défauts des 12. Mais on voit une chose qui est claire, ils avaient des faiblesses, ils n'étaient pas parfaits. Et Jésus ne les a pas rejetés pour autant. C'est eux qu'il a appelés à le suivre. Et par sa grâce et son amour, c'est eux qu'il a transformés. Il a fait de ces hommes ordinaires des disciples extraordinaires. Et ces disciples, ils ont fait quoi? Ils ont transmis la bonne nouvelle. Et ils ont influencé ce monde. 2000 ans plus tard, on continue à parler d'eux. Jésus ne cherche pas des gens parfaits pour le suivre. Mais par contre, il demande une chose. Quand il dit « Viens et suis-moi », c'est un engagement. Un engagement total. Un engagement à abandonner sa vie, un engagement à abandonner ses biens si besoin. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10, au verset 17. Je vais vous les lire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux, devant lui, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dans ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il dit, « Il te manque une chose, va vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et j'ai un autre passage dans Luc 14 au verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, ou dans certaines traductions, sa propre âme, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Est-ce que dans ces deux passages, Dieu nous demande de tout abandonner, de tout vendre, de haïr même femme, enfant, famille? Pas nécessairement, mais il vient remettre en question la place que toutes ces choses prennent dans nos vies. Et je pense que ce matin, le Seigneur nous appelle à mettre la lumière sur ces choses qui prennent le dessus sur lui, dans notre quotidien, dans nos liens, dans nos familles, dans notre travail. Est-ce que je suis prêt à quitter mon travail si Jésus me demande de le faire? Seigneur, tu pourvois. Alors engageons-nous et demeurons dans sa présence. Aspirons à devenir comme Jésus. Faisons ce qu'il faisait. Enseignons. Partageons la bonne nouvelle. Aimons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Guérissons. Et faisons des disciples. On a parlé de l'appel tout à l'heure avec la parole de Andrew. Et je pense que cet appel à quitter la rive pour se rapprocher de la source, c'est un appel quotidien. C'est un appel dans lequel on a besoin de s'engager jour après jour. Et des fois, tout seul, c'est pas facile. Alors, encourageons-nous les uns les autres, à travers nos groupes de vie, à travers nos groupes de croissance, à travers des amitiés. Encourageons-nous les uns les autres à répondre à cet appel, à quitter la rive et dire « Seigneur, j'ai quitté mon confort, j'ai quitté ce que je connais. Maintenant, je viens à toi et je viens vraiment à la source. » Amen. Je vais prier. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole. On veut te dire merci pour cette parole qui pénètre notre âme, pénètre notre corps et qui vient nous transformer, Seigneur, de l'intérieur. Seigneur, ce matin, tu viens nous demander de demeurer dans ta présence, de répondre à cet appel, Seigneur, de nous engager à être avec toi, à te suivre, à devenir comme toi, pour simplement faire ce que toi tu faisais. Et cette mission, ce mandat, Seigneur, on ne veut pas se demander si nous avons la capacité ou si nous avons les compétences pour tout ça, mais simplement, Seigneur, on veut te faire confiance. On veut répondre à cet appel, Seigneur, avec une obéissance totale. On veut te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as planté ce matin. On veut te dire merci, Seigneur, de nous demander de quitter le rivage pour aller à toi. Parce que tu es la source de vie, la source d'abondance. C'est toi qui as les paroles de vérité, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen.